cours de phytopathologie générale. Chapitre 2 et 3. Chapitre 2. Les maladies et les fonctions vitales des plantes. Première section. Les perturbations des fonctions vitales des plantes. Les troubles des fonctions physiologiques des plantes ne sont pas spécifiques à ces plantes. Ils ne représentent qu'un aspect de la maladie et sont étroitement liés aux troubles morphologiques et cytologiques, c'est-à-dire aux troubles de la forme et de la structure des cellules. Ainsi, une même maladie peut se manifester par exemple par une destruction progressive des organes, par une décoloration des chloroplastes, ou encore par une diminution de l'activité d'assimilation de la plante. Sous-section première. L'influence de l'infection sur le métabolisme de la plante hôte. Toute infection possède initialement un effet stimulant sur la plante, mais elle se traduit généralement par un déclin en qualité et en quantité de la production. Ce déclin est dû à trois composantes principales. La première est la spoliation directe des substances nourricières par les parasites, c'est-à-dire le vol des ressources nutritives de la plante. La deuxième est l'accélération des métabolismes, qui épuise les réserves de la plante. La troisième est l'interférence directe avec le métabolisme de la plante hôte, qui perturbe son fonctionnement normal. Sous-section deuxième. L'effet de la maladie sur la respiration. L'activité respiratoire des plantes se modifie sous l'action des parasites. En général, elle augmente plus ou moins rapidement peu après l'infection. Si l'infection se maintient longtemps, il en résulte d'abord un phénomène d'affamation de la plante, puis une accumulation de produits secondaires indésirables. Sur les plantes infectées, la respiration est parfois momentanément accrue avant de retomber rapidement. Sous-section troisième. L'effet de la maladie sur la photosynthèse. La chute de la photosynthèse caractérise généralement les infections causées par des champignons pathogènes, comme la rouille ou l'oïdium. Cette fonction vitale qu'est la photosynthèse est généralement en forte diminution dès le deuxième jour sur les feuilles infectées. Chez certaines espèces végétales, des tissus sont rapidement endommagés, ce qui explique cette baisse. Cette réduction peut être due à plusieurs facteurs. La destruction des chloroplastes, c'est-à-dire les organites responsables de la photosynthèse. Des stomates restant fermés plus longtemps, ce qui limite les échanges gazeux. Un passage réduit du dioxyde de carbone dans le mésophylle, c'est-à-dire le tissu interne de la feuille. La lumière n'atteignant plus la surface des feuilles recouvertes par des mycéliums, c'est-à-dire les filaments des champignons, ou encore des feuilles déformées, qui captent mal la source d'énergie lumineuse. Sous-section quatrième. L'altération du régime de l'eau dans les plantes. Dans les plantes malades, le régime de l'eau peut être perturbé à deux niveaux. D'abord au niveau de l'absorption, les racines attaquées par la maladie ne fonctionnent pas de manière optimale. Ensuite au niveau du transport, l'occlusion ou la fermeture anormale des xylèmes, c'est-à-dire les vaisseaux conducteurs de la sève brute, est due à des gels résultant de la dégradation enzymatique des parois cellulaires. Le flétrissement des jeunes plants peut également être provoqué par une modification de la perméabilité des membranes et des cellules des stomates sous l'action de toxines. Il faut noter enfin que plusieurs processus physiologiques vitaux des plantes sont très sensibles au stress hydrique. Sous-section cinquième. L'influence de la maladie sur le développement général de la plante. Les plantes infectées par certaines bactéries, comme celles responsables de l'échaudure, présentent une surface foliaire diminuée, beaucoup moins de talles, c'est-à-dire de tiges secondaires, et des tiges beaucoup plus courtes. Tous ces éléments réunis conduisent à une perte importante. Vagrants. Les parasites des feuilles abaissent également le rendement, et les pertes sont généralement proportionnelles à la précocité des attaques. Une forte contamination peut réduire le taux de croissance de la plante à environ 40% par rapport à une plante saine. Deuxième section. La notion d'épidémie. La définition médicale du terme épidémie peut également s'appliquer en pathologie végétale, mais la notion d'étendue de la maladie doit être précisée. En effet, l'échelle de surface est très variable en agriculture en fonction de la valeur économique de la culture et des surfaces exploitées. Cette notion d'étendue peut donc se limiter à une serre, à un verger de quelques hectares, ou s'étendre à une région de plusieurs milliers d'hectares. La notion d'épidémie est souvent employée pour décrire un développement soudain et rapide d'une maladie très répandue. Elle est aussi utilisée pour désigner la dynamique de la maladie, c'est-à-dire l'évolution de son importance dans le temps. Selon cette définition, il peut exister des épidémies rapides ou des épidémies lentes. La majorité des maladies épidémiques chez les plantes correspond à des maladies transmissibles, ce qui explique en partie leur caractère soudain. La transmission se fait par voie passive, dans le sol ou dans l'atmosphère, ou par voie active via la pluie, les insectes ou l'activité humaine. À l'opposé des épidémies, on observe des maladies endémiques. Celles-ci correspondent à des maladies réparties de façon homogène ou hétérogène, mais qui ne touche qu'un faible nombre d'individus. La fréquence des plantes malades reste basse et relativement constante au cours du temps, ce qui ne signifie pas pour autant que l'impact agronomique d'une endémie est faible. Une autre caractéristique de l'endémie est la présence permanente du parasite. Cet état endémique peut parfois être le précurseur d'une épidémie. Sous-section première. Les caractéristiques d'une épidémie. Les principales conditions pour qu'une infection donne naissance à une épidémie sont les suivantes. Du côté de la plante hôte, il faut une forte concentration de plantes génétiquement identiques et une grande sensibilité de ces plantes à l'agent pathogène. Du côté des parasites, il faut un pouvoir de reproduction élevé, un pouvoir de contamination élevé et une dispersion aisée. Du côté du climat et de l'environnement, il faut des conditions favorisant l'infection, dans la plupart des cas une forte humidité combinée à une température d'environ 20 degrés Celsius. Il existe également différents types d'épidémies. Les épidémies annuelles, plus ou moins intenses, se déroulent sur un espace relativement constant et sont fréquentes dans les cultures céréalières et les vergers. Les épidémies pluriannuelles, quant à elles, progressent sur un ou plusieurs pays et s'étendent sur plusieurs années, pouvant atteindre le stade de pandémie. Lorsqu'une épidémie se déclenche dans une nouvelle région, elle est très forte les premières années, gagne rapidement de nouveaux territoires, puis diminue progressivement pour se stabiliser. Sous-section deuxième. Règles générales de lutte contre les maladies des plantes. La lutte contre les maladies des plantes cultivées est basée sur le respect de quelques règles fondamentales. La mise en œuvre de ces règles repose sur un ensemble de mesures concrètes. Des actions de contrôle et de surveillance, une prophylaxie, c'est-à-dire des mesures préventives, basées sur l'élimination des sources de contamination et des vecteurs, ainsi que l'utilisation de méthodes de lutte physiques, chimiques, culturales et biologiques. Concrètement, il faut établir les cultures à partir d'organes sains, traiter les semences avant leur utilisation, empêcher la conservation des agents pathogènes dans l'environnement, et empêcher le transport des germes infectieux. Il faut également cultiver des variétés résistantes ou tolérantes. Pratiquer la culture dans des conditions écologiques et culturales défavorables aux agents pathogènes et favorables à l'expression de la résistance des plantes. Et enfin protéger les cultures par des moyens chimiques ou biologiques, que ce soit de façon préventive ou curative. Sous-section troisième. Les différentes méthodes de lutte. La réduction des pertes dues aux bioagresseurs, c'est-à-dire aux organismes vivants qui causent des dommages aux cultures, peut se faire par différents moyens. On distingue le contrôle, qui désigne tout moyen de maîtrise des maladies agissant en amont du dégât, et qui relève donc de la prophylaxie, et la lutte, qui désigne les moyens permettant d'agir sur les bioagresseurs lorsqu'ils sont déjà présents dans la parcelle, dans un objectif de limitation des dégâts. La lutte chimique consiste à utiliser des produits phytosanitaires. C'est le moyen de lutte le plus utilisé de nos jours, souvent associé au contrôle génétique, qui consiste à cultiver des plantes sélectionnées pour leur résistance, leur tolérance ou leurs caractéristiques physiologiques particulières. La lutte biologique utilise des organismes vivants pour prévenir ou réduire les dommages causés par les maladies. Le contrôle ou lutte culturale consiste à adapter le système de culture pour limiter les dommages. Il fait appel à des adaptations des rotations des cultures, du travail du sol, de la date et des densités de semis, ainsi que de la gestion des fertilisations. Ce type de protection relève de la prophylaxie dans la mesure où il permet d'éviter les conditions propices à la contamination des cultures et au développement des maladies. Enfin, la lutte physique fait appel à des moyens thermiques ou mécaniques, comme le désherbage mécanique par exemple. Conclusion du chapitre 2. L'état pathologique d'une plante est caractérisé par une rupture de l'équilibre physiologique, résultant de l'impuissance des mécanismes régulateurs au-delà d'un certain seuil. Ce déséquilibre persistant entraîne une perturbation nuisible pour l'organisme végétal. Les facultés d'adaptation de la plante s'avèrent beaucoup moins efficaces face aux perturbations causées par des micro-organismes que face à d'autres types de stress. D'une manière générale, une maladie peut être considérée comme un phénomène de nature réactionnelle, déclenché sous l'effet d'un facteur défavorable à la vie de la plante. Indépendamment du cas où la maladie provoque la mort de la plante, elle peut l'affaiblir, gêner l'élaboration ou le transport des substances nutritives, empêchant leur accumulation dans les organes cibles. La maladie est également susceptible d'inhiber, c'est-à-dire de ralentir, partiellement ou totalement, la formation de certains organes. Chapitre 3. Les techniques d'identification des maladies au laboratoire. Introduction. Des méthodes d'isolement des bactéries et des champignons pathogènes ont été décrites dès le début du 19e siècle par Robert Koch, médecin allemand. Koch a énoncé un postulat, c'est-à-dire une base de démonstration, précisant les étapes successives permettant d'établir une relation causale entre une maladie et un micro-organisme. Bien que cette base de démonstration ait été formulée initialement pour les maladies infectieuses de l'homme, elle peut être transposée aux principales affections parasitaires des végétaux. Première section. Les étapes du postulat de Koch. Les étapes du postulat de Koch, appliquées à la phytopathologie, s'énoncent comme suit. Premièrement, l'agent pathogène doit être présent chez les plantes malades et absent chez les plantes saines. Deuxièmement, l'agent pathogène doit pouvoir être isolé des plantes malades et multiplié en culture, c'est-à-dire dans un milieu préparé spécialement pour le développement des micro-organismes. Troisièmement, lorsque l'agent pathogène obtenu en culture pure est inoculé à une plante saine, il doit induire des symptômes. Caractéristiques de la maladie d'origine. Quatrièmement, à partir des plantes ainsi infectées expérimentalement, on doit pouvoir isoler de nouveau l'agent pathogène, ce qui boucle le cycle de démonstration. La réalisation complète ou partielle de toutes ces étapes fait appel à un ensemble de techniques. L'observation microscopique, nécessaire pour la détection et l'identification du parasite. Les techniques d'isolement de l'agent pathogène à partir des tissus de la plante hôte. Les méthodes de production de l'inoculum en culture pure. Et enfin l'inoculation des plantes hôtes. Deuxième section. L'identification des agents pathogènes. L'identification précise des agents pathogènes nécessite leur isolement à partir des tissus de la plante hôte et leur mise en culture dans un milieu approprié. Cependant, les zones altérées ne contiennent pas seulement des agents parasites. Elles contiennent également des saprophytes, c'est-à-dire des organismes qui se nourrissent de matières organiques mortes, lesquelles peuvent compliquer l'isolement du parasite en cause et donc le diagnostic. Les différentes étapes d'isolement d'un agent pathogène sont les suivantes. D'abord le choix de l'échantillon végétal et sa désinfection éventuelle. Ensuite le dépôt du fragment désinfecté dans un milieu nutritif. Enfin l'obtention du parasite en culture pure. Le choix du fragment végétal à déposer sur le milieu de culture contribue grandement à éliminer la microflore banale. On préfère travailler sur des tissus dont les symptômes sont fraîchement apparus, plutôt que sur des tissus colonisés depuis longtemps par les parasites. En l'absence de saprophytes, il est possible d'isoler directement le parasite à partir des fructifications, que l'on obtient en plaçant le tissu portant des lésions dans un milieu humide. Après quelques jours d'incubation, on prélève les spores à la loupe avant de les inoculer dans le milieu nutritif. Dès la formation des jeunes colonies, on procède au repiquage dans un autre tube. Troisième section. La mise en culture des échantillons. Après désinfection éventuelle, le fragment de plante malade est déposé dans un milieu nutritif. Ce fragment désinfecté peut également être écrasé et dilué dans de l'eau distillée stérile. Les parasites des systèmes conducteurs se développent à partir des vaisseaux, et les colonies isolées sont ensuite repiquées dans différents milieux de culture. Quatrième section. La conservation et la protection des cultures. Les champignons en général ne semblent pas capables de poursuivre indéfiniment leur développement. Après un certain temps, les souches deviennent sénescentes, c'est-à-dire vieillissantes, et finissent par mourir. Pour les conserver, il est donc nécessaire d'augmenter la longévité des cultures. Certains traitements permettent d'accroître cette longévité et de rajeunir les souches vieillissantes. Il s'agit notamment de la conservation à basse température. Les basses températures augmentent considérablement la longévité des cultures. Les souches sont généralement conservées à une température d'environ 4 degrés Celsius dans un milieu légèrement gelé. Il s'agit aussi de la conservation dans un milieu inhibiteur de croissance, comme un milieu sans ion manganèse, qui réduit la vitesse de croissance du champignon. Enfin, il existe la lyophilisation, c'est-à-dire la déshydratation par congélation à des fins de conservation. Cette technique est de plus en plus utilisée de nos jours. Elle consiste à dessécher le mycélium ou les spores des champignons à basse température. Grâce à cette méthode, la souche reste viable pendant plus de 20 ans. Cinquième section. L'inoculation des plantes. L'inoculation consiste à mettre en contact une plante hôte et un agent pathogène dans des conditions environnementales favorables à l'infection. Pour la plupart des champignons, les spores sont appliquées sur la partie aérienne ou sur les racines des plantes, qui sont ensuite maintenues en milieu humide pendant 24 à 48 heures. Cette période est nécessaire à la germination des spores et à la pénétration des tubes germinatifs dans les tissus de l'hôte. Sixième section. Le pouvoir pathogène des champignons. Premier point. Les capacités intrinsèques de l'agent pathogène. Le terme « capacité intrinsèque de l'inoculum », c'est-à-dire les capacités propres à l'agent pathogène, recouvre deux propriétés principales. La première est la capacité à se développer et à survivre dans le sol, que l'on appelle la capacité saprophyte de l'agent. La seconde est la capacité à infecter une ou plusieurs espèces végétales, que l'on appelle le pouvoir pathogène de l'inoculum. L'ensemble des espèces végétales concernées par l'infection constitue ce que l'on appelle le spectre d'hôte de l'agent pathogène. Deuxième point. La capacité s'approfite de l'agent pathogène. Dans le sol, les champignons pathogènes survivent de différentes manières. Soit de façon active sur des débris organiques, soit de façon inerte sous forme de spores. Avant d'infecter l'hôte, l'agent pathogène doit se développer en mode saprophyte pour parvenir au contact de l'organe à infecter. Cette capacité à la croissance saprophyte peut varier d'une souche à une autre. Le terme capacité saprophyte englobe donc à la fois la capacité de l'inoculum à croître dans le sol et à y survivre. Conclusion general. La phytopathologie a commencé dès les origines de l'agriculture, à une époque où la protection des cultures contre les maladies et les ravageurs était essentielle à la survie de l'être humain. En effet, en concentrant des populations de végétaux sur certaines surfaces et en pratiquant des cultures successives de la même plante sur le même sol, l'agriculteur a créé des conditions particulièrement favorables au développement des maladies des plantes cultivées. Les civilisations grecques et romaines luttaient déjà contre la rouille et le charbon dès le XVIIe siècle. Et c'est au milieu du XIXe siècle que les premières recherches ont permis d'établir les fondements scientifiques de la phytopathologie. Ces travaux ont ainsi rendu possible la démonstration des relations entre certaines maladies et les micro-organismes qui en sont responsables.